de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Système de transport en Allemagne paralysé à la suite de la grève des travailleurs. Président Joko Widodo envoie le président de l'Association indonésienne de football, PSSI, rencontre la FIFA. En mission de navire de guerre français à Coste, à Jakarta. Promotion de l'inclusion financière et de l'alphabétisation des PME en tant qu'étape stratégique dans le cadre de l'économie numérique de l'ASEAN. Rejette l'enquête sur la guerre contre la drogue. Les Philippines rompent leur lien avec la CPI. Et Indonésie reçoit 3 thèmes alternatifs pour sa participation à l'exposition universelle de 2025. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le système de transport en Allemagne a été paralysé à la suite de la grève des travailleurs réclamant des augmentations de salaire. L'action de grève des travailleurs du secteur des transports a été menée en raison de l'augmentation de l'inflation dans le pays. Selon The Guardian, les travailleurs des aéroports, des ports, des trains, des bus et des lignes de métro en Allemagne se sont joints à la grève appelée par le Verdi et les syndicats EVG en journée entière. Suite à cette grève, les passagers des transports en Allemagne éprouvent des difficultés à se déplacer. Le syndicat Verdi demande une augmentation de 10,5% des salaires des travailleurs, tandis que EVG demande une augmentation de 12%. Les représentants de la DB ont déclaré que la grève était infondée et inutile. L'entreprise a alors exhorté le syndicat à reprendre immédiatement le travail. L'Association allemande des aéroports a déclaré que la grève des travailleurs était injustifiable. On estime qu'environ 380 000 passagers d'avions seront touchés par cette grève. Comme de nombreux autres pays, l'Allemagne a récemment été frappée par une forte inflation à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les prix des denrées alimentaires et de l'énergie en Allemagne ont grimpé en flèche avec l'invasion russe, qui n'est pas encore terminée. Le président Joko Widodo a souligné que l'Indonésie continuerait à s'efforcer d'être en mesure d'accueillir la Coupe du Monde, ou 20. Le chef de l'État, dans une déclaration concernant la Coupe du Monde, U20, sur YouTube au secrétariat d'État mardi. La FIFA est déjà au courant du rejet de la participation de l'équipe israélienne, mais le gouvernement essaie de trouver la meilleure solution.
FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan.
La FIFA est consciente du rejet de la participation de l'équipe nationale israélienne à la Coupe du Monde U20. Mais le gouvernement et PSSI, c'est l'Association indonésienne du football, tentent toujours de trouver la meilleure solution. Pour cette raison, j'ai envoyé le président général de PSSI, Mohamed Erick Thohir, rencontrer l'équipe de la FIFA pour trouver la meilleure solution. Dans sa déclaration, le président Joko Widodo a garanti que la participation d'Israël à la Coupe du Monde U20 n'avait rien à voir avec la cohérence de la position de politique étrangère de l'Indonésie envers la Palestine. En ce qui concerne la Coupe du Monde U20, l'Indonésie convient avec l'ambassadeur palestinien en Indonésie que la FIFA a des règles qui doivent être respectées par ses membres. Le chef de l'État a rappelé de ne pas mélanger sport et politique. Le président a ajouté que lorsqu'il a été nommé hôte, l'Indonésie ne savait pas qui serait l'équipe participante, car elle était encore dans le processus de pré-qualification. Deux navires de guerre de la marine française, à savoir le LHD, Landing Helicopter Dock, d'Ixmude, et la frégate Lafayette, ont fait le tour du monde. Les deux navires ancrés au port de Tanjung Priok, au nord de Jakarta, du 26 au 29 mars 2023. Le commandant du navire LHD d'Ixmude, le capitaine Emmanuel Mokar, a déclaré mardi à l'équipe des médias sur l'air l'atterrissage pour hélicoptère du navire que l'Indonésie était un grand partenaire pour la France. L'armée française étant également impressionnée par les eaux et les pays de la région Indo-Pacifique. Les deux navires français prirent le temps de faire escale en Indonésie. Emmanuel a expliqué que, lors de sa visite à Jakarta, son parti avait mené de nombreuses activités conjointes pour se rapprocher de l'Indonésie, notamment en invitant des journalistes de plusieurs médias nationaux par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Jakarta. À cette occasion, Emmanuel a également admis qu'il était impressionné de pouvoir organiser une formation conjointe avec des fantassins indonésiens. Avec les marines indonésiennes.
So far, I'm impressed by their level.
Jusqu'à présent, je suis impressionné par la marine indonésienne. Chaque année, des navires français viennent en Indonésie. Une bonne occasion pour notre marine de travailler ensemble. Je peux dire que nous pouvons être efficaces en mer si nous naviguons ensemble. Pendant 3 jours en Indonésie, 120 soldats tactiques de l'armée française ont participé à l'exercice conjoint Garuda Guerrier Juin. À l'exercice conjoint Garuda Guerrier Joint Exercise avec le 328 Airborne Infantry Battalion Kostrad à Cilodong, Java occidental, dont certains venaient de plusieurs pays européens, américains, africains et pays asiatiques. Les deux navires de guerre français ont effectué une mission pays nommée Jeanne d'Arc 2023. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a estimé que la décision de promouvoir l'inclusion financière et l'alphabétisation des PME dans l'ASEAN est une étape stratégique et un élément important du cadre de l'économie numérique de l'ASEAN. Cette étape offrira aux MPME un meilleur accès au financement et augmenter leurs opportunités économiques pour atteindre le marché. Sri Mulyani, lors du dialogue de haut niveau, séminaire sur la promotion de l'inclusion financière numérique et de l'alphabétisation des MPME à Badung, Bali, a déclaré mercredi la numérisation rapide du secteur financier, l'accélération des écosystèmes numériques, le numérique paiement et les plateformes économiques incluront certainement l'inclusion financière. Selon Sri Mulyani, la numérisation offrira aux MPME des opportunités d'accroître leurs compétences et leurs capacités. L'innovation et l'accélération de l'économie numérique et de la numérisation sont essentielles pour une croissance plus productive et inclusive des MPME. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré mardi que son pays romprait les liens avec la Cour pénale internationale, CPI, après l'échec d'un appel pour mettre fin à une enquête sur la répression antidrogue de son prédécesseur Rodrigo Duterte. Des milliers de Philippins, dont la plupart sont des modestes trafiquants et consommateurs de drogue, ont été tués par la police dans le cadre de la répression contre la drogue de Duterte. La plupart des victimes ont été mystérieusement abattues. La CPI a alors ouvert une enquête sur les allégations de violations exprimées par des défenseurs des droits humains et des victimes d'exécutions systématiques et de dissimulation par la police, qui ont affirmé n'avoir tué qu'en état de légitime défense. Il a souligné que les Philippins ne pouvaient plus coopérer avec la CPI, dont la compétence était douteuse et en raison de ce qu'il a qualifié de tentative d'intervention et d'atteinte à la souveraineté de l'État. La CPI est la plus haute juridiction qui peut exercer ses pouvoirs si un État refuse d'enquêter sur un crime. Les Philippines soutiennent que leurs propres institutions sont capables de poursuivre les crimes qui se produisent. Le ministre de la Planification du Développement National de la République d'Indonésie, chef de l'Agence de Planification du Développement National, Suharto Manoarfa, a reçu une audience avec le vice-ministre des Affaires internationales du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Hirai Hirohide, mardi 28 mars. La réunion a discuté de la coopération entre l'Indonésie et le Japon lors de l'exposition universelle qui se tiendra à Osaka, Kansai en 2025. L'Indonésie participera également à l'exposition qui porte sur trois thèmes, à savoir la neutralité carbone, la numérisation et la mobilité. L'Indonésie a reçu trois thèmes alternatifs. Le premier thème est « Accueillir l'avenir ». Le deuxième thème est « Notre nature, notre avenir ». Ce thème montre que l'Indonésie, qui est dotée d'abondantes richesses naturelles, est attachée au principe de la croissance verte comme moteur de l'avenir. Pendant ce temps, le troisième thème s'est développé en harmonie, met l'accent sur le message selon lequel le voyage de l'Indonésie vers l'avenir ne consiste pas seulement à progresser, mais aussi à trouver un équilibre. Mon cher Jeter, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Indonésie espère toujours accueillir la Coupe du Monde U20 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, l'Indonésie a été désignée pour accueillir la Coupe du Monde U20 qui doit se dérouler du 20 mai au 11 juin 2023. Depuis la nomination en octobre 2019, l'Indonésie n'a cessé de préparer cet événement international. Cependant, au milieu des préparatifs, une polémique a éclaté au sujet de la participation d'Israël à la prochaine Coupe du Monde U20. Après que l'équipe nationale israélienne, en juin de l'année dernière, a été confirmée pour se qualifier pour la Coupe du Monde U20. Le récit du rejet de la présence de l'équipe nationale israélienne en Indonésie a commencé à être exprimé par divers groupes dans le pays. La raison, l'Indonésie soutient la lutte palestinienne contre l'occupation israélienne. La polémique atteint son paroxysme après que le gouverneur de la province de Bali, Iwayan Koster, a déclaré qu'il refusait la présence d'Israël sur son territoire. En conséquence, le tirage au sort de la Coupe du Monde U20 qui devait se tenir à Bali le 31 mars a été annulé par la Fédération mondiale de football, FIFA. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients de la présence d'Israël à la Coupe du Monde U20, l'ambassadeur palestinien en Indonésie, Zuhair Al-Shun, a publié une déclaration assez neutre. Il a déclaré, cité par TheTic.com, qu'Israël s'était qualifié pour la Coupe du Monde U20 2023 de manière légale et selon les règles afin qu'il ait tous les droits de concourir. Selon Zuhair, le soutien de l'Indonésie à la Palestine ne changera pas même s'il permet à Israël de venir en Indonésie. L'Indonésie aurait toujours été cohérente et constante dans son soutien à la question palestinienne dans diverses instances régionales, bilatérales et multilatérales. Après que la FIFA a annulé le tirage au sort de la Coupe du Monde U20 à Bali, on craignait que la FIFA ne déplace également le match dans un autre pays. Répondant à cette polémique, le président Joko Widodo, mardi dernier, a également publié un communiqué. Il a garanti que la participation d'Israël n'avait rien à voir avec la cohérence de la position de politique étrangère de l'Indonésie envers la Palestine, car le soutien de l'Indonésie à la Palestine a toujours été solide et fort. En ce qui concerne la Coupe du Monde U20, le président Joko Widodo a convenu avec l'ambassadeur palestinien en Indonésie que la FIFA a des règles auxquelles ses membres doivent obéir. Alors ne confondez pas sport et politique. Le président Joko Widodo a également immédiatement ordonné au président de l'Association indonésienne de football, PSSI, Erick Thohir, de rencontrer la FIFA pour trouver la meilleure solution. Espérons que la rencontre avec la FIFA produira des résultats satisfaisants pour l'Indonésie, tant dans le domaine du football qu'en tant d'organisateur d'événements internationaux. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Nous continuons notre émission avec une rubrique quotidienne, l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 29 mars 1922, la fondation du club philatélique de Batavia. La communauté philatélique d'Indonésie célèbre la journée nationale de philatélie chaque 29 mars. Le 29 mars est pris à partir de la date de fondation du club philatélique Vos Zegelver Zamelaar Club Batavia. Le 29 mars 1922, les collectionneurs de timbres ont réuni à Batavia et établi le club philatélique nommé Potzegelwezemelaar Club de Batavia. Après l'indépendance de la République d'Indonésie, le nom de l'association a changé pour l'Association générale philatélique indonésienne. Passons maintenant à l'événement du 29 mars 2001, l'ouverture officielle de l'aéroport d'Incheon. L'aéroport international d'Incheon est le plus grand aéroport de Corée du Sud et l'un des plus grands d'Asie. Cet aéroport remplace l'aéroport international de Gimpo, qui est maintenant un aéroport domestique, à l'exception des vols internationaux vers l'aéroport international de Haneda à Tokyo, au Japon, et l'aéroport international de Onkyo, à Shanghai, en Chine. Agissant en tant qu'aéroport de correspondance pour la région de l'Asie de l'Est, 63 compagnies aériennes desservent des vols vers cet aéroport. Nous finissons l'histoire du jour avec l'événement du 29 mars 2010, l'attentat à la bombe dans la station de métro de Moscou. L'attentat du métro de Moscou en 2010 a été un attentat suicide par deux femmes à deux stations de métro de Moscou. La première attaque a eu lieu à la station Lubyanka. La deuxième attaque a eu lieu environ 40 minutes après la première attaque dans la station du Parc Kultury. Au moins 38 personnes ont été tuées. Les enquêtes indiquent que l'attentat à la bombe a été perpétré par des séparatistes tchétchènes. Les responsables russes ont dit qu'il était l'attaque terroriste la plus meurtrière et la plus sophistiquée dans la capitale russe. C'est Zoritar, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Saja ini terbaik untuknya. Yang bilang kau harus bisa seperti aku, yang sudah biarlah sudah. Mudah saja bagimu, mudah untukmu. Andai saja cintamu seperti cintaku. Setelah waktu berjalan, kau kembali datang.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, la Chine oriente l'AIF pour le financement des infrastructures vertes. L'Asien oriente désormais le Fonds conjoint de développement des infrastructures, AIF, pour le financement des infrastructures vertes. En raison du besoin croissant d'infrastructures vertes de l'Asien, si bien qu'il y a eu des discussions sur le déplacement de l'image de marque de l'AIF au Fonds vert de l'Asien. Cela a été transmis par le chef de l'Agence de politique budgétaire du ministère des Finances, Febrio Kacaribou, lors d'une conférence de presse à la résidence de Badung, Bali, lundi. Febrio Kacaribou expliquait que l'utilisation de capitaux qui était renforcée dans le Fonds vert de l'ASEAN sera répondue par des finances d'autres institutions comme Banque Asiatique de Développement, BAD, et Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures, BAII. Avec le développement de cette agence de financement, on espère que le financement des investissements pour les infrastructures vertes dans la région de l'ASEAN se renforcera plus. Kacaribou a ajouté que c'était l'un des moyens de renforcer l'unité entre les pays de l'ASEAN, car il y aurait une répartition uniforme de l'utilisation de financement. Ainsi, le financement des infrastructures de l'ASEAN n'est pas seulement accordé à l'Indonésie et aux pays relativement aisés. Febrio a expliqué que pour le financement de la transition énergétique, l'ASEAN a construit une taxonomie verte pour impliquer le secteur financier privé jusqu'à la Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures. La Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures est une institution de financement initiée par l'ASEAN depuis longtemps, à savoir depuis environ 2008. L'objectif initial était en fonds communs, puis pour le financement mixte. Il existe la collection des capitaux des membres de l'ASEAN qui est un fonds catalyseur pour la participation privée, allant de multilatéraux tels que la Banque Asiatique de Développement, BAD. Il a ajouté que le fonds d'infrastructure de l'ASEAN fonctionnait depuis plusieurs années. Cependant, les deux tiers des bénéfices de financement sont accordés à des projets d'infrastructure en Indonésie. Par conséquent, à l'avenir, l'ASEAN tentera de relancer le fonds d'infrastructure de l'ASEAN en accordant la priorité au programme sur le changement climatique, car les infrastructures sont désormais déplacées à ce programme, comme le secteur de l'énergie pour les énergies renouvelables et les infrastructures vertes pour l'adaptation ou l'atténuation du programme sur le changement climatique. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Serge Tap cherche au tas d'îles où nous quittons pour rompre le jeûne à Benhil. Le centre de Jakarta est un endroit qui ne sera pas oublié. Benhil est un marché impromptu qui n'a lieu que tous les mois de Ramadan. Cela fait partie de l'histoire de Jakarta. Le marché tajil de Benhil est ouvert tous les 14 heures à 19 heures heure locale. Au marché tajil Benhil, les visiteurs peuvent déguster une variété de collations, d'aliments et de boissons indonésiens comme menu pour rompre le jeûne. Le marché tajil de Benhil a été lancé par le Forum des soins de Benhil ou FPB en 1985. Au début de son apparition, le menu tajil qui était vendu n'était pas diversifié, uniquement des aliments frits et des boissons sucrées. Jusqu'au début des années 2000, seuls 15 tableaux vendaient du tajil sur le marché. Cependant, depuis 2010, le marché tajil de Benhil s'est développé rapidement. Son emplacement à proximité des bureaux rend le marché bondé d'employés qui veulent rompre leur jeûne au mois de Ramadan. En conséquence, il y a plus d'une centaine de tables de commerçants de tajil faisant la queue au marché tajil de Benhil. Chers auditeurs, l'ouverture des inscriptions pour les tables du marché tajil de Benhil commence généralement 5 jours avant le Ramadan. Les commerçants potentiels peuvent s'inscrire via le FPB pour vendre pendant le Ramadan. Le grand enthousiasme suscité par le commerce de tajil au marché tajil de Benhil oblige le gouvernement de la ville de Jakarta Central à organiser le marché impromptu. Je veux dire impromptu. Dans l'histoire du marché tajil de Benhil, le marché était fermé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Depuis 2022, enfin, le gouvernement a permis à ce marché de fonctionner à nouveau. Au marché tajil de Benhil, une variété d'aliments frais et de boissons pour rompre le jeûne sont vendus. Les acheteurs peuvent trouver du mpempe, de l'otak-otak, des aliments frits, du lamang, des gâteaux traditionnels, de la glace mélangée, de la glace kouout et des plats de padang. Bon, chers auditeurs et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Le marché tajil de Benhil ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
jendela berembun, kamu ada. Tak berkedip, mata berbisik, isyaratkan rindu yang dalam kepada.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs solitaires, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Saya akan pilih Sabtu ».« Saya akan pilih Sabtu ». Je choisirai samedi. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Saya akan pilih Sabtu. Saya akan pilih Sabtu. Je choisirai samedi. Jadi kapan Anda akan mengambil paket wisata dalam kota Jakarta? Oh, saya akan pilih Sabtu. Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Saya akan pilih Sabtu. Saya akan pilih Sabtu. Je choisirai samedi. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saya. Saya. Je. Akan pilih. Akan pilih. Choisirai. Sabtu. Sabtu. Samedi. Saya akan pilih Sabtu. Saya akan pilih Sabtu. Je choisirai samedi. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Saya akan pilih Sabtu ».« Saya akan pilih Sabtu ». »« Je choisirai samedi ». Pour transmettre l'heure de la journée, vous pouvez dire les noms des jours tels que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Allons, chers amis, écoutons des expressions pour exprimer le temps en utilisant le vocabulaire du jour. Sabtu, samedi. Sabtu ini kamu ada acara? Sabtu ini kamu ada acara? Ce samedi, tu es disponible? Minggu. Minggu, dimanche. Bima pergi pada hari Minggu. Bima pergi pada hari Minggu. Bima va le dimanche. Chers amis, conformément aux directives générales pour l'orthographe indonésienne, l'écriture du mot hari commence par une lettre majuscule. Par exemple, initial S, de jour Senin, c'est-à-dire lundi, est en majuscule. De même pour d'autres marqueurs de temps, comme le mot écrit avec une majuscule initiale. Par exemple, l'initial J. J pour Juli, c'est-à-dire juillet. En indonésien, est en majuscule. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute! Jadi kapan Anda akan mengambil paket wisata dalam kota Jakarta? Oh, saya akan pilih Sabtu. Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'Indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Tak pernah begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Sumatra occidentale intitulée Bapisa Bukan Bacarai. Chers auditeurs, la chanson Bapisa Bukan Bacarai a été composée par Tarun Yusuf. Cette chanson parle d'un mari qui va migrer vers une autre région. Devant se séparer, l'épouse s'est inquiétée de devoir vivre seule. Le mari lui a demandé de renforcer sa foi, car il n'était séparé que pour errer, pas divorcé. Bon, chers auditeurs, voici Eli Kasim va chanter une chanson intitulée Bapisa Bukan Bacarai. Bonne écoute.
Bapisa Bukan Bacarai. Usahlah dia menangis juga basa-basa yang nantikan denai tantuan karma iman di dalam
bapisa bukannya pacaran udah bacalah padamlah palito kasihan nasi kaden padu
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.